bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être là pour cette cinquième conférence publique organisée par l'ISM. Ce soir, donc, une conférence à trois intervenants sur les modes d'appartenance à l'islam. D'une part, interviendra M. Homero Marunju Peria, qui est docteur en sociologie, membre statutaire du laboratoire SISMOC, qui est un centre interdisciplinaire d'études sur l'islam dans le monde occidental à l'Université de Louvain, et directeur scientifique et pédagogique chez ECLE, European Center for Leadership and Entrepreneurship Education. Alors, M. Marunju Peria est expert en politique de non-discrimination et en management de la diversité. Il a mené plusieurs projets de recherche-action français et européen sur le renouveau religieux contemporain. Et il a participé à de nombreuses consultations, expertises et formations pour des institutions, collectivités et associations cultuelles sur la laïcité, l'islam et les musulmans en Europe. L'intervention de M. Marunju Peria portera sur les mouvements islamiques les plus importants en France. Le deuxième intervenant, non présent encore, mais qui ne va pas tarder à arriver, est M. Mohamed Bediebnou, qui est directeur de l'Advanced Studies Research Center, le centre de recherche et études avancées à Bruxelles, et directeur de l'Institut des études épistémologiques à Bruxelles, encore une fois. Il est chargé de cours et il enseigne à l'Université Paris-Dauphine, ainsi qu'à Dauphine-Tunis et à l'Université de Cergy-Pontoise. Il est l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages, en particulier en français, « Des origines à Averroès, voile, nudité et indécence », publié chez l'Harmattan en 2014, et toujours en 2014, toujours aussi chez l'Harmattan, « Qu'est-ce que la charia ? Introduction à l'épistémologie de l'herméneutique normative en islam ». Il interviendra sur le thème « Questionner l'islam » avec une majuscule, donc religion, culture, civilisation, en tant qu'objet d'étude en Europe. Enfin, M. Albrecht Fuss est docteur en islamologie et directeur du Centre d'études sur le Proche et le Moyen-Orient de l'Université de Marbourg. Ses recherches portent sur les musulmans en Europe, sur les mamelouks et, de manière plus générale, sur l'islam médiéval. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont « Culture de cours dans le monde musulman du 7e au 19e siècle » en anglais, coordonné donc « Court Cultures in the Muslim World, 7th, 19th Centuries », qui est co-dirigé avec Jan-Peter Hartung, publié à Londres chez Routledge en 2011, et un ouvrage co-dirigé avec Bernard Héberger, « La frontière méditerranéenne, 15e, 17e siècle, échange, circulation et affrontement », publié en 2014 chez Brepols. Albrecht Fuss s'intéressera au rôle de la musique comme moyen de résistance ou signe de croyance des musulmans en Europe, et donc plus particulièrement au raï, au rap et à la chanson, et il prendra des exemples en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc je leur laisse la parole, d'abord à M. Marunju Peria, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci M. Bjerézy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en ce qui me concerne, mon intervention va porter sur une présentation succincte et rapide du paysage des acteurs que l'on pourrait considérer en partie les acteurs institutionnels de l'islam français, dont une part sont issus de mouvements à la fois de prédication ou de ce qu'on appelle communément la matrice islamiste. Mais peut-être vais-je démarrer en donnant deux, trois précisions sur mon ancrage, c'est-à-dire les études que j'ai conduites et comment j'ai été amené à travailler sur cette question. Donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2002. Cette thèse était intitulée « L'islam au pluriel, étude du rapport au religieux chez les jeunes musulmans ». Et c'est en analysant les manières d'être, les modes d'appropriation de l'islam chez les publics jeunes, en gros c'était les 18-30 ans, que j'ai été amené à m'intéresser de plus près sur un certain nombre de mouvements présents, de mouvements de prédication présents en France. Et à partir de là, j'ai essayé de remonter le fil historique et je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est qu'il existe une relation de ces mouvements qui ne datent pas d'une période récente. Et je vous renvoie pour cela à l'ouvrage très intéressant qui a été rédigé, écrit par Sadek Selam, La République et ses musulmans, 1895-1905, dans lequel il retrace les relations entre les pouvoirs publics français, mais pas uniquement. C'est également le corps d'armée, c'est également le monde universitaire, donc intellectuel, tous ces ensembles, leur rapport avec les musulmans et des musulmans très diversifiés qui étaient présents sur le territoire français déjà depuis au moins le milieu du 19e siècle, avec un foisonnement intellectuel. Dans une certaine mesure, une forme de prédication, en tout cas des polémiques et des joutes intellectuelles de haute voltige comparées parfois à ce que l'on peut voir aujourd'hui dans le rapport de la France à ses musulmans et au niveau des débats intellectuels également. L'histoire récente, c'est la deuxième chose dont je me suis aperçu, l'histoire récente de cette présence militante musulmane en France, je pense qu'elle reste encore à écrire, en tout cas à être approfondie, car depuis les ouvrages, le premier ouvrage de Gilles Kepel, Les banlieues de l'islam, dans lequel il présentait un certain nombre d'associations musulmanes présentes sur le territoire français. Donc il a focalisé en particulier sur le mouvement du Tablir, un mouvement de prédication fondamentaliste, piétiste, qui est présent dans la société française depuis le début des années 60. Donc il a focalisé un peu sur ce mouvement. Et puis il s'est attardé également assez longuement sur l'UOIF, l'Union des organisations islamiques en France, qui est devenue l'Union des organisations islamiques de France par la suite, en essayant d'analyser en profondeur la structuration et les modes de prédication de ces différents protagonistes. Depuis cette époque, il y a une dominante de la politologie dans les études universitaires appliquées à l'islam, qui fait que le prisme de départ est très focalisé sur la relation que ces entités, ces associations ou ces mouvements de prédication entretiennent, la relation qu'ils entretiennent avec soit les pays d'origine, soit avec la matrice originelle. Dans un cas, donc il s'agit d'un mouvement qui a pris naissance en Inde pour le Tablir. Dans l'autre cas, c'est la matrice islamiste telle que les frères musulmans l'ont définie, théorisée, puis la façon dont elle s'est développée de par le monde. Donc il y a un prisme de départ qu'il faudrait peut-être... dont il faudrait se décentrer pour établir une véritable sociologie des religions appliquée à l'islam, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Donc ce que je vais vous livrer, moi, fait partie de Recherche Action, est issu donc de Recherche Action, est issu également d'un certain nombre d'entretiens, de recherches personnelles que j'ai continuées sur le terrain. Et je me suis focalisé, moi, en particulier, sur la structuration et l'évolution des frères musulmans en Europe et plus précisément en France. Et j'ai terminé un article avec mon confrère Samir Amgar, qui est en attente de publication sur l'évolution donc des frères musulmans à partir d'une logique différente de celle qui est présentée actuellement, puisqu'on parle beaucoup de l'engagement militant, et nous avons pris un autre focus qui est celui du désengagement militant, puisque nous considérons que nous sommes aujourd'hui à une autre époque, qui est celle des allégeances plurielles, ou en tout cas des modes d'identification pluriels des nouvelles générations à l'islam. Et nous ne sommes plus dans les engagements totalisants tels que les générations précédentes de musulmans ont pu les vivre. Je pourrais approfondir par la suite si vous le voulez. Alors, si on reprend l'histoire récente, il faut partir de, on va dire en gros, je m'excuse pour mes confrères s'il y en a dans la salle, je vais faire une présentation résumée, donc forcément un peu caricaturale de la structuration et de l'évolution de ces associations et mouvements présents en France. Donc il faut remonter au début des années 60 avec la présence sur le sol français de deux grandes figures de musulmans, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a une première figure qui va traverser la deuxième moitié du XXe siècle, qui est celle de l'ouvrier, qui vont en partie se structurer ou être structurés sur fond d'évolution du droit associatif français, peu de structuration jusqu'au début des années 80, puisque jusqu'à l'élection de François Mitterrand, il n'était pas possible pour les personnes étrangères de créer des associations sans l'aval préalable du ministère de l'Intérieur. Donc c'était une promesse électorale de François Mitterrand de libérer le droit associatif, ce qui sera fait à partir de 1981. Donc c'est pour cela que l'on voit une croissance exponentielle des associations cultuelles et culturelles musulmanes entre 81 et au moment où Gilles Kepel sort son livre « Les banlieues de l'islam », donc en 87. Donc il y a une croissance assez exponentielle de quelques dizaines d'associations. On voit l'installation dans la société française de plus de 600 associations. C'est pour cela que le sous-titre de son livre était « La France aux 600 minarets », je crois, ou 600 mosquées, si je ne me trompe pas. Donc il faut remonter déjà au début des années 60 avec cette première figure de l'ouvrier qui est déjà présent au préalable, déjà dans l'entre-deux-guerres, déjà au début du XXe siècle, mais qui est présent de manière plus significative, plus massive en nombre d'individus et plus durable également, puisque ce sont les accords de charbonnage, les accords industriels entre la France et ses anciennes colonies. Donc ces populations s'installent plus durablement et se structurent au fur et à mesure. À côté de cela, il y a la figure de celui que je vais qualifier d'étudiant ou d'intellectuel, qui est aussi un personnage récurrent de l'islam de France ou de l'islam français, c'est-à-dire ici de la présence de musulmans depuis la moitié du XIXe siècle dans la société française, qui est une présence durable, elle aussi, et antérieure à la présence massive de musulmans. Elle est déjà en partie structurée. Il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes figures intellectuelles musulmanes algériennes, notamment, qui sont présentes en France durant les années 30. On a une première figure d'un musulman très francophone et lettré qui est Malek Bennabi. On a Messali Hadj qui est le dirigeant d'un mouvement qui est plutôt sur la fibre religieuse, etc., avec un foisonnement intellectuel, une structuration également, puisqu'on a des revues qui sont présentes et qui va perdurer après la Deuxième Guerre mondiale. Et au début des années 60, il existe une association qui s'appelle l'AEIF en France, qui a été créée en 1963, l'Association des étudiants islamiques en France, qui va péricliter dans le courant des années 70, puis qui va renaître une deuxième fois durant les années 80 sous un deuxième intitulé, l'Association des étudiants islamiques de France, et qui est un regroupement à la base d'intellectuels musulmans dont certains s'inscrivent de manière plus forte dans le courant des frères musulmans. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans le rapport des mouvements islamistes ou des mouvements de prédication à la société française. C'est à la fois une histoire récente par sa visibilité ou par sa structuration et son déploiement dans la société française et plus largement européenne. Mais c'est également quelque chose qui s'ancre dans une histoire un peu plus lointaine et on ne peut pas se contenter des modes de structuration des associations musulmanes telles qu'on les a connues au début des années 80 pour comprendre cette grande trame des relations entre la France et ses musulmans. Donc nous sommes au début des années 60, il y a cette association des étudiants islamiques en France qui joue un rôle en partie dans l'émergence d'un certain nombre de lieux de culte, mais également dans une réflexion de type à la fois académique et également militante sur l'islam, mais qui n'a pas un grand impact sur le rapport à l'islam et sur la structuration progressive de ces musulmans ouvriers présents dans la société française. Le groupe de prédication qui va avoir un impact assez important de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 sur ce regain de religiosité chez les musulmans, c'est plutôt le mouvement Tablir, T-A-B-L-I-G-H, qui vient du verbe arabe ballara, qui signifie transmettre, dans le sens de la prédication. C'est un mouvement de prédication qui a pris naissance en 1927 dans le nord de l'Inde, initié par des membres d'une famille de traditionnistes musulmans, les traditionnistes étant des spécialistes de la tradition prophétique, donc du hadith. C'est la famille Al-Kandahlawi. Et il y a différents personnages de cette famille qui vont avoir une audience assez importante dans une forme de prédication auprès des musulmans vivant dans les campagnes du nord de l'Inde, une prédication qui est centrée sur un discours religieux assez simple à destination de personnes qui ne sont pas lettrées, de personnes qui ont un faible bagage intellectuel et une faible connaissance religieuse, à visée apologétique importante, puisqu'il s'agit à la base de combattre la déperdition de l'identité religieuse dans les campagnes musulmanes du nord de l'Inde, face à une prédication de mouvements chrétiens présents dans cette région, et également centré sur une orthopraxie très stricte. Orthopraxie ici dans le sens de la pratique religieuse telle qu'elle est définie par l'institution. Donc ici, il s'agit d'être un bon musulman, de faire ses prières quotidiennes, de célébrer ses offices quotidiens, d'être assidu dans son rapport à Dieu et dans sa manière de pratiquer la religion. Et ce mouvement de prédication va progressivement essaimer et il va entretenir des liens avec d'autres mouvements de prédication, notamment par différents voyages de l'une des figures donc qui s'appelle Mohamed Ilyas Al-Kandahlawi, qui va faire plusieurs voyages à la Mecque durant la période du pèlerinage et qui va, à partir de là, rencontrer des musulmans du monde entier. Son mouvement va essaimer progressivement et aujourd'hui, c'est l'un des mouvements... Non, c'est pas l'un... C'est le mouvement fondamentaliste musulman le plus structuré à l'échelle de la planète. En nombre d'adhérents, en nombre de ramifications, de centres présents de par le monde, etc. On en trouve de par le monde depuis l'Amérique du Sud jusque quasiment le Japon. Donc c'est un mouvement qui a essaimé un peu partout et qui est centré donc sur une orthopraxie très très forte, un mimétisme à ce que l'on pense être la pratique des premiers musulmans. Donc cela se traduit par un habit spécifique qui se traduit également par un mode de vie centré sur la pratique de la prière, le respect des interdits, etc. Je n'entre pas dans les détails. Et un mode de prédication très particulier. C'est un mouvement apolitique. Et le but est de faire en sorte que les musulmans retournent à une certaine assiduité religieuse pour que la société puisse se transformer. Donc si je reprends la terminologie de Gilles Kepel, nous serions ici dans un mouvement de prédication par le bas, c'est-à-dire qu'il s'agit pour eux de réislamiser la société en faisant une prédication directement orientée vers les musulmans. Donc c'est un mouvement qui n'a pas de visée hors champ musulman, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que leur prédication est vraiment centrée uniquement vers les musulmans. Vous pouvez éventuellement en rencontrer en France lorsque vous voyez des musulmans, des groupes de prédication musulmans qui circulent sur la voie publique avec une djellaba en général et puis une imama, un turban. J'essaye de faire les ponts entre les deux langues, donc qui portent un turban sur la tête, qui circulent deux par deux et qui sont surnommés par un certain nombre de musulmans les témoins de Jéhovah de l'islam, dans le sens où ils ont une forme de prédication qui s'apparente un peu à celle du groupe précité et qui sont présents, en fait, historiquement parlant, en termes de prédication. Ce sont les premiers musulmans qui vont réellement... faire une prédication à grande échelle sur le territoire français en tant que terre de prédication qui a pour vocation à faire en sorte que le musulman puisse préserver son identité dans l'attente du retour éventuel au pays. Donc ici, c'est de faire en sorte que les populations musulmanes, qui à l'époque sont encore dans un entre-deux, puisqu'on a beaucoup d'ouvriers, de mineurs qui sont seuls sur le territoire français, l'épouse est au pays, ou en tout cas elle n'est pas encore venue, les enfants ne sont pas encore là où ils sont nés au pays, et pour ceux qui sont présents, il s'agit donc de préserver l'identité dans l'attente éventuelle du retour au pays. Parallèlement à cela, il y a une présence également d'intellectuels musulmans qui sont, eux, plutôt en lien avec la matrice islamiste. Donc je vais faire une distinction dans ma présentation entre ce premier mouvement, donc le Tablir, que je qualifie de mouvement fondamentaliste piétiste, car ils sont dans une lecture littérale des textes religieux et ils s'affilient à une doctrine qui consiste à revenir à la pratique des anciens. C'est dans le sens qu'on les appelle des fondamentalistes, et piétistes dans le sens où ils sont apolitiques et leur prédication est uniquement centrée sur une orthopraxie stricte par rapport à ce qu'ils pensent être la pratique religieuse des premiers musulmans. Parallèlement à cela, il existe donc des mouvements qui sont plutôt affiliés à la matrice islamiste. Donc ici, par islamisme, j'entends de manière très précise ce que l'on appelle dans le registre sociologique l'islam politique, donc l'islamisme étant en référence aux tendances de l'islam qui considère que la société doit être gérée selon le code de loi musulman, ou en tout cas la constitution doit être puisée directement à l'aune des sources structurelles musulmanes, avec un projet de société centré sur une certaine vision qu'ils ont de ce que doit être une société musulmane, et qui se double de, à la fois d'une prédication pour que les musulmans soient également dans une orthopraxie qui soit la plus stricte possible, mais qui en même temps entre dans le jeu politique sous différentes formes pour que leurs idées puissent avoir une audience plus importante et qu'ils puissent accéder éventuellement au pouvoir, ou en tout cas de faire en sorte que le système politique soit transformé pour être calqué sur la charia. Donc il existe depuis le début des années 60 un certain nombre de figures qui étaient présentes sur le territoire français, mais qui n'avaient pas de lien direct avec les ouvriers musulmans présents en France. Et il va se produire ce que j'appelle, et qui n'est pas suffisamment approfondi jusqu'à aujourd'hui, une jonction à la fin des années 70 entre des étudiants venus principalement des pays du Maghreb, mais en nombre moins important du Proche-Orient, et les associations qui commencent à émerger et qui sont dirigées par ce qu'on appelle des primo-migrants, à dire tout simplement des migrants plus âgés, ouvriers, avec une préoccupation chez ces derniers qui est de stabiliser, on pourrait dire, leur petite communauté de foi à l'échelle locale en se dotant d'infrastructures culturelles, mais également périculturelles, si on peut dire. Donc c'est l'émergence des boucheries halal, etc., l'émergence des mosquées, des associations culturelles pour transmettre aux enfants une culture, une religion, un patrimoine, etc. Et ces étudiants qui soit ont été islamisés dans la matrice islamiste dans leur pays d'origine, soit sur le territoire français, avec cette rupture à la fin des années 70 entre deux tendances des frères musulmans qui vont donner naissance à deux associations. La première, c'est celle que l'on connaît, qui a plus d'audience, qui s'appelle l'UOIF. Alors, on parle beaucoup d'associations dans le langage journalistique, mais également chez certains chercheurs. On parle d'associations qui ont un lien ou qui s'inscrivent dans ou qui dépendent de, etc., des frères musulmans. Mais de manière plus concrète, il y a une structuration des frères musulmans qui ont mis en place un système pyramidal à partir de l'Égypte, avec un responsable dans chaque pays d'islam, arabe ou non arabe. Et pour l'Occident, il y a eu une division en deux parties, une vision pour une structure qui était censée chapeauter l'Europe de l'Ouest et une autre structure qui était censée chapeauter l'Amérique du Nord et le Canada par rapport à la présence effective de musulmans là-bas. Et pour la France, c'est l'UIF qui va être, on va dire, le relais direct des frères musulmans sur le territoire français. L'UIF va être en tension avec une autre association qui va s'affilier à une doctrine dissidente par rapport à la situation qui se passait en Syrie à la fin des années 70 et qui reprendra l'intitulé de l'association tombée en désuétude qui s'appelle l'AEIF, Association des étudiants islamiques en France. Donc ce qui fait que nous avons en France, au niveau de la structuration associative, une partie du tissu associatif qui est encadrée par le fondamentalisme piétiste et une autre partie du tissu associatif qui est encadrée par une fédération d'associations, l'UIF, et une autre qui va tomber définitivement en désuétude, l'AUIF, qui est plutôt issue de cette matrice militante islamiste qui va s'essouffler au fur et à mesure, puisqu'en contexte sécularisé se pose un problème très simple pour les mouvements de prédication, qu'ils soient d'obédience fondamentaliste ou d'obédience islamiste, se pose la question de la doctrine. Quelle doctrine définir en contexte sécularisé et des modes de prédication? Dans quelle langue? Selon quelle modalité pour les nouvelles générations, etc. C'est pour cela qu'avec mon confrère Samir Amgar, nous avons pris le contre-pied des approches dominantes à l'heure actuelle pour aborder plutôt l'essoufflement de tous ces mouvements aujourd'hui à partir du prisme de, non pas de l'adhésion, mais de la désaffiliation doctrinale chez les nouvelles générations de musulmans. À côté de cela, le paysage islamique français est dominé également par des associations qui ne sont pas directement issues de matrices de prédication ou de matrices en lien avec l'islamisme, mais plutôt de la stratégie des États pour encadrer les populations musulmanes. Et au tournant des années 80 et 90, les amicales algériennes, marocaines vont être complètement supplantées par des associations qui vont se structurer dans le champ religieux. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui, par exemple, des associations comme le RMF et l'UMF, le Rassemblement des musulmans de France et l'Union des mosquées de France, qui sont des résurgences du type d'encadrement qui avait cours jusqu'au début des années 80 à travers les amicales qui vont tomber en désuétude par l'essoufflement de leur cadre au fur et à mesure. À côté de cela, il y a d'autres types d'associations qui sont plus en lien avec les courants soufis et qui évoluent dans des sphères très particulières. Je ne m'attarderai pas dessus pour une raison très simple, c'est que je ne suis absolument pas spécialiste de ces courants doctrinaux et de leur mode de structuration, et également par le fait que c'est un tissu associatif qui est extrêmement éclaté. Et seules des monographies peuvent nous renseigner de manière plus précise sur les tendances doctrinales, les modes d'affiliation, les structurations de ces associations dans le territoire français. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps tourne. Donc c'est juste une présentation comme ça, tirée à gros traits à peu près 25 minutes. Et j'approfondirai en fonction de la discussion qu'il y aura tout à l'heure.
Je vous remercie. Alors moi, je vais parler légèrement en retrait par rapport au sujet principal, au central de cette rencontre. Je parlerai plutôt de la nouvelle figure, si j'ai pu dire, de l'islam, des musulmans petit à petit appelés désormais islam. Et donc, je m'interroge sur qu'est-ce que veut dire islam, et en particulier, qu'est-ce que veut dire islam dans ces nouvelles structures ou dans cette nouvelle figure émergente depuis les années 90 en France, en Angleterre et en partie en Allemagne, mais également en Belgique, mais également en Hollande, beaucoup moins en Italie et en Espagne. Et cette figure qu'on qualifie d'institut supérieur ou d'institut islamique privé universitaire ou à vocation universitaire ou se présentant comme universitaire, ou qualifiés comme tels, ou parfois on dit aussi en voie de devenir des instituts universitaires. Et ces instituts qu'on a commencé à créer dans les années 90, évidemment, vont d'une certaine façon répondre à une certaine demande, mais ces instituts ont également un projet à l'origine qui est probablement un décalage par rapport à cette demande, et dans cet équivoque ou dans ce malentendu initial s'est créé une nouvelle figure de l'islam en France, en Allemagne et en Angleterre. Et je l'aborderai en deux temps. Je dirai quelques mots sur d'abord ce que j'appelle une équivoque fondamentale ou un malentendu fondateur. Et j'aborderai en second lieu la question de l'adaptation donc au contexte, qui est une adaptation encore en évolution. Alors, il y a très peu de recherches encore sur ces instituts. Votre institut a eu le grand privilège de faire un rapport assez détaillé sur la cartographie ou le panorama général de ces instituts en France. Il y a également une étude en Angleterre qui est sortie en 2004 et qui d'ailleurs porte aussi bien sur l'Angleterre que sur la France et l'Allemagne, qui s'appelle Muslim and the State, Germany, France and the UK. Et nous avons à Bruxelles amorcé des ateliers sur ces nouvelles structures depuis 2 ans. Donc ce sont encore évidemment des recherches très partielles et extrêmement lacunaires. Et comment dire, les résultats évidemment sont encore extrêmement sujets à précaution. Et donc évidemment tout ce que j'ai dit, il va falloir évidemment le confronter à la réalité. On a sorti pour la parenthèse publicitaire un premier travail donc, qui s'intitule « The Muslim Diaspora in Europe and the USA ». Et le second travail donc portera essentiellement sur la Belgique et la France, et en particulier donc sur ces nouvelles formes de sociabilisation éducative, si on peut les appeler ainsi. Alors, ces instituts, en réalité, pour le premier axe, ont été créés d'abord dans un projet qui s'insère assez bien dans ce qui vient d'être expliqué. Ce sont essentiellement des organisations, des associations qui répondant ou pensant répondre à un besoin qu'ils estiment de plus en plus exprimé pour former du personnel religieux en Europe, par exemple en France, la question de la formation des imams ou la question de la formation des aumôniers a été de multiples fois posée. Et donc, on a cru qu'il fallait créer des instituts religieux sur le modèle des facultés islamiques existantes dans les pays à majorité musulmane. Donc, évidemment, qui sont des instituts qu'on qualifie parfois d'instituts postcoloniaux, où ces facultés, par elles-mêmes, ne s'inscrivent pas tout à fait dans la tradition de l'enseignement islamique traditionnel. Elles répondent pour l'essentiel aux critères, ou elles se veulent en adéquation avec les critères des universités modernes, moyennant une certaine standardisation et une certaine forme de rupture avec l'enseignement traditionnel. Et en particulier avec ce que, depuis Harcourt, on appelle en France les humanités de la langue arabe, c'est-à-dire désormais donc tout le socle interprétatif lié à la langue arabe, l'ensemble des disciplines littéraires, rhétoriques et herméneutiques, etc., a été plus ou moins sacrifié au profit d'un certain nouvel enseignement qui a été largement propagé, aussi bien en Asie centrale que dans le monde arabe, qu'en partie en Afrique, notamment au Nigeria. Et cet enseignement, donc, qui porte souvent les titres de institut ou faculté, université islamique, parfois on dit de sharia ou sulding, de la sharia et des fondements de la religion, si on peut traduire ça comme ça. Et ce type d'enseignement a déjà été largement mis en cause dans différents rapports dans les pays musulmans, et notamment sur la façon dont fonctionne la formation de ces enseignants et de ces chercheurs. Je dirais un mot très rapide là-dessus. La critique fondamentale a consisté, par exemple, dans un rapport sorti en 2004 sur le fait que, du point de vue de la sociologie, si on peut dire, de la sociologie des sciences, ou de la sociologie de l'apprentissage, ou de la sociologie de l'éducation, les enseignants de ces cadres sont souvent sélectionnés par défaut. Autrement dit, dans l'enseignement traditionnel, souvent, on considère que, on peut dire entre guillemets, que ce sont les figures d'excellence qui deviennent des savants en fiqh, les figures un peu moins, qui s'avèrent moins douées, si on peut dire ça comme ça, sont formées pour une discipline qui s'appelle le hadith. Et puis, un dernier ressort, c'est qui, en quelque sorte, sont sélectionnés par défaut, deviennent des prédicateurs. des wa'al. Et le terme prédicateur, wa'al, est traditionnellement considéré comme un terme péjoratif ou dépréciatif. Et la critique consiste à dire que dans ce type de structure, c'est la figure du prédicateur qui va dominer, contrairement à ce qui était dans l'enseignement traditionnel, puisque pour reprendre de façon caricaturale ce qui a été développé dans cette étude, si vous êtes excellent, vous allez dans les sciences exactes, si vous êtes moins excellent, vous allez dans les sciences sociales et littéraires, mais si vous ne manifestez aucune disposition particulière pour aucune de ces disciplines, alors vous allez dans les instituts dits islamiques, etc. Et donc, pour résumer ça dans une formule très connue d'un collègue, c'est si vous êtes pas censé apporter beaucoup de choses dans cette vie-là, alors autant qu'on vous destine à l'au-delà et donc on vous forme. Voilà. En France, en réalité, c'est une des expériences qui apparaît plus prégnante et probablement celle qui a donné en quelque sorte des idées aussi bien aux instituts qui ont été formés en Angleterre et en Allemagne, et en Belgique et en Hollande par la suite. Quoique, évidemment, il y a un enseignement islamologique et orientaliste extrêmement développé en Allemagne et en Hollande, mais on va voir qu'effectivement, ces instituts représentent tout à fait une autre réalité qui est un décalage et probablement en rupture avec cet autre enseignement universitaire qui existait préalablement en Europe. Et, c'est en 1990 que le premier institut a été créé, et par la suite, compte tenu effectivement d'une cartographie idéologique qui ressemble à ce qui vient d'être dit, beaucoup d'autres instituts ont été créés, souvent en réalité issus de rivalités entre différentes tendances existantes sur la scène française. Le fait fondamental, c'est qu'on a créé des facultés pour former du personnel religieux, c'est-à-dire des imams, des aumôniers, etc., et qu'on pensait qu'on pouvait les former comme on les forme en Inde, dans le monde arabe, en Afrique noire, c'est-à-dire que d'abord on va leur enseigner l'arabe et les disciplines liées à la langue arabe, et par la suite ils vont faire leur apprentissage en langue arabe. Ces instituts avaient une structure économique assez fragile pour l'essentiel, et pour beaucoup d'entre eux, fonctionnement sur un mode assez informel dans le recrutement des enseignants. Mais l'idée fondamentale, c'était de recruter des enseignants qui venaient du monde musulman. Or, le premier échec en se confrontant à la réalité, c'est de voir qu'il y a une très grande demande, mais qui ne consiste pas du tout en une demande de la formation du personnel religieux. Beaucoup de candidats, des étudiants, à l'époque des années 90, bac plus 2, de plus en plus bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, etc., au fur et à mesure de l'évolution. Par exemple, aujourd'hui, dans les instituts, il y en a à peu près une douzaine dans les banlieues nord et est de Paris. Souvent, effectivement, les étudiants sont plutôt bac plus 3, bac plus 4. Ces étudiants, en général, ont plutôt, ou expriment plutôt, le besoin d'une culture générale, qu'ils qualifient d'islamique. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent islamique ? On reviendra peut-être à la fin. Mais donc, de façon globale, cette culture est qualifiée effectivement d'islamique. Et généralement, ils ne sont pas disponibles ou disposés à faire l'apprentissage long de la langue arabe et de ses disciplines pour pouvoir continuer leur apprentissage en langue arabe. Ce qui a contraint l'essentiel de ces instituts à composer avec cette nouvelle situation, à former des enseignants, ou en tout cas à faire appel à des enseignants qui peuvent, cas en cas, donner un enseignement en français ou en anglais ou un peu moins en allemand ou en hollandais. Ceci, évidemment, on va avoir tout à fait une conséquence majeure sur le déroulement de l'enseignement par la suite. Alors, quand on regarde ces étudiants dans leur demande fondamentale, effectivement, souvent, on a formé cette hypothèse en disant, au fond, il y a un jeu de miroir entre ces étudiants et ce reproche assez récurrent qu'on fait à l'école publique en France ou en Angleterre ou en Allemagne, et qui consiste généralement, et là je parle d'un reproche que les chercheurs font souvent, et qui consiste en général de dire l'école publique, par différenciation vis-à-vis, par exemple, de l'enseignement islamique ou de l'enseignement chrétien ou de l'enseignement juif ou que sais-je encore, c'est défini comme laïque et donc c'est défini comme voulant donner un enseignement, par exemple de l'islam, qui ne serait pas un enseignement réduit aux faits religieux en tant que tel et encore moins un enseignement théologique. Mais paradoxalement, c'est du moins le reproche à vérifier qu'on lui fait souvent, paradoxalement, on dit souvent qu'effectivement cet enseignement réduit d'abord les cultures qu'on qualifie parfois de décentrées, les cultures de l'autre, ce que quelqu'un appelle « the great gap » au collège, pour ne pas le désigner, le grand vide. sont réduites à l'islam et l'islam grandit est réduit à l'islam petit-i. C'est-à-dire l'islam en tant que culture ou espace culturel ou espace civilisationnel, quoi que je n'aime pas ce terme, est réduit à sa dimension religieuse. Et donc, pour reprendre un terme utilisé par un des chercheurs français, l'islam est réduit, ou l'histoire de l'islam est réduite à l'histoire religieuse de l'islam. Alors, en tout état de cause, ce qui ressort de ça, c'est que l'hypothèse fondamentale, c'est de dire il y a un islam unifié, monolithique, opposé à la laïcité que l'école publique crée. Et ses étudiants, généralement, viennent dans l'idée que cet islam unifié, monolithique, existe. Et ils demandent à ce qu'on le leur enseigne. Alors, cela a abouti, du moins en tout cas, d'après un certain nombre d'études, pour l'instant à l'essai. Et évidemment, je répète toujours que l'enquête est encore loin d'être complète dans ce domaine. Cela aboutit, ou cela aboutirait probablement à un des résultats qu'on voit à l'œuvre et qui est que les facultés créées dans les années 90, non seulement ont changé de langue d'enseignement, mais ont changé également de manuel scolaire. Ce qui a été la visée fondamentale au départ de traduire les manuels scolaires existants dans les pays musulmans, les traduire en français, a été remplacé par une espèce, si vous voulez, de cadre scolaire, de cadre bibliothécaire scolaire, essentiellement adossé à ce qui est disponible en termes de littérature de vulgarisation, elle-même adossée à des structures d'édition encore régies par l'économie informelle et encore, ce qu'on appelle les maisons d'édition communautaires, qui sont encore extrêmement peu professionnalisées. Évidemment, ce sont les réseaux les plus influents, les plus présents, ceux qui traduisent le plus, qui naturellement ont le monopole sur l'essentiel de cette littérature de vulgarisation qui existe. Évidemment, on entend parfois même des chercheurs qui n'hésitent pas à la qualifier d'une littérature caricaturale. Alors, en tout cas, c'est une littérature où effectivement, aussi bien la professionnalisation éditoriale que celle de la traduction sont loin d'exister. Alors ça me permet de parler de ce fait d'adaptation en deuxième lieu, et de parler donc du fait que, fondamentalement, dans ce fait d'adaptation, on va reconnaître ou observer deux faits. Le premier, c'est que, compte tenu du nombre de plus en plus croissant, les instituts, évidemment, se multiplient. Et que, du point de vue économique, contrairement à l'idée du départ, se financent pour l'essentiel désormais par le biais de leurs propres étudiants. Le deuxième élément, ici, c'est que, puisqu'effectivement, ce sont les étudiants désormais qui financent ces instituts, l'adaptation à cette demande a forcé petit à petit les instituts classiques, les instituts existants, ne sont pas si classiques que ça, à remplacer une bonne partie du personnel enseignant, qui était essentiellement du personnel formé dans les facultés religieuses et qui utilise un français ou un anglais approximatif, ou un hollandais ou un allemand encore plus approximatif, par généralement ce que mon collègue vient d'appeler des primo-migrants, c'est-à-dire effectivement des gens qui sont formés en partie dans les pays arabes ou musulmans et qui ont eu un complément de formation dans les universités françaises, mais qui n'ont pour l'essentiel pas de formation dans les sciences religieuses en tant que telles. Et donc, la conséquence immédiate de cela, c'est que la littérature de vulgarisation deviendra non seulement l'outil fondamental de la formation des étudiants, mais aussi l'outil fondamental de la formation de leurs enseignants. Et que pour conclure, la figure essentielle de cet enseignement, si on peut dire, aussi bien telle qu'elle se présente dans les manuels scolaires, si on peut les appeler ainsi, que dans les programmes, mais aussi dans la subjectivité des étudiants, c'est-à-dire dans la manière dont ils expriment ce qu'ils appellent l'islam, ou les disciplines religieuses, ou les disciplines islamiques, c'est que cet enseignement est amputé de ce qu'on apprend généralement dans les facultés traditionnelles et qu'encore une fois on appelle ou on traduit par le terme les humanités de la langue arabe, et que deuxièmement, les disciplines qu'on enseigne désormais sont essentiellement les disciplines orthopraxiques ou normatives. Par exemple, la philosophie religieuse, enfin tout ce qui gravite autour, par exemple les figures classiques, si vous voulez, de la philosophie religieuse musulmane ne sont pas enseignées, puisque ça nécessite un certain accès à la langue qui n'est pas tout à fait celui de ses étudiants. Par exemple, ce qu'on traduit par le terme mysticisme, le soufisme et toutes les disciplines qui vont avec, ce que traditionnellement on appelle ulum ar-ruh, enfin littéralement les sciences de, comment on peut traduire ça, de l'âme ou de l'esprit, de l'anima littéralement, ces disciplines sont effectivement sacrifiées puisqu'effectivement, ils ne s'adaptent pas à ce type d'enseignement et aux compétences existantes. Et donc, on s'est réduit effectivement à l'enseignement du fiqh, celui que les journalistes appellent la sharia, et on est réduit également à l'enseignement d'une certaine forme du hadith, non pas celui qu'on enseigne, c'est-à-dire du corpus des propos, gestes et faits attribués au prophète, mais pas exactement celui qu'on enseigne dans les facultés traditionnelles, mais à une forme, si vous voulez, réduite de cela, et qui souvent, effectivement, est en adéquation avec la demande existante. Et cette demande existante est effectivement, compte tenu du fait que les sciences herméneutiques, travaillées par le concept de l'irtilaf, c'est-à-dire par la divergence, et par toute la pluralité qui est enseignée, y compris dans une seule école, par exemple le malikisme en Afrique, je dirais, est intraduisible, en tout cas inadaptable. Et de ce point de vue-là, elle est considérée, y compris par les enseignants qui la revendiquent, comme rébutante pour le corps des étudiants. Et donc, elle est essentiellement remplacée, pour l'essentiel, par une vision unifiée qui n'est pas celle, par exemple, de l'islam d'Afrique du Nord, ou de l'islam noir, ou de l'islam asiatique, ou de l'islam moyen-oriental, mais, je dirais, d'un nouveau type d'islam européen. Ce nouveau type d'islam européen est essentiellement religieux, en tout cas, au moins, tel qu'il s'exprime dans ces instituts. Et non seulement il est religieux, il est normatif ou orthopraxique, pour reprendre le terme que je viens d'entendre. Régit donc par la dichotomie classique de licite et illicite. Et en dernier lieu, il est régi aussi par une nouvelle lexicologie, une nouvelle terminologie, qui est un mi-chemin entre la lexicologie classique inventée par les orientalistes ou les néo-orientalistes, et par une terminologie aléatoire qui se recherche, créée par ce que j'ai appelé l'édition de l'informel qualifiée de communautaire. Alors, bien entendu, on a remarqué depuis 2005, 2006, 2007, d'abord en Angleterre et puis en France, l'émergence de nouvelles structures qui s'évèlent beaucoup plus professionnelles et qui ont fait également émerger une nouvelle figure d'étudiants. Et donc, ce sont globalement des étudiants, probablement qui reflètent une nouvelle évolution socio-économique, et qui sont à la demande effectivement d'enseignement religieux, mais aussi d'un enseignement plus approfondi des disciplines de la langue arabe, d'un côté, mais de l'autre côté, un enseignement plus approfondi des langues sociales. Des langues sociales modernes, j'entends. Des sciences sociales, pardon, modernes, j'entends. Et dans cette nouvelle figure des structures, fondées par exemple en Angleterre, dans des universités qui sont à mi-chemin entre l'université classique et ces structures, telles que les centres islamiques d'Oxford ou de Cambridge, ou l'Institut international de la pensée islamique qui a existé un certain temps ici en France, ou l'université islamique qui est une succursale d'université turque qui existe en Hollande, ou les nouveaux instituts créés par l'Allemagne qui sont en partie des instituts universitaires et aussi des instituts para-universitaires, on a remarqué désormais qu'il y a un nouveau public qui est à la fois un public qui est à la recherche de cette culture générale et qui ne voit dans cet enseignement qu'un complément de formation et non pas, la vocation d'exercer une carrière sous forme de, d'imamat, si j'ai pu dire, ou de profession d'aumônier, mais qui, dans le même temps, a des aspirations qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on trouvait jadis chez les anciens étudiants, c'est-à-dire des aspirations, en quelque sorte, de faire le pont avec ce que l'université traditionnelle ou régulière enseigne. Et de ce point de vue-là, notamment en Allemagne, dans les 4 instituts créés à Berlin, à Francfort, à Tübingen et...
Tübingen,
Francfort et...
Münster, Osnabrück.
Ah, Münster, exact.
Et Erlangen.
Et qui désormais donc... alors là, c'est 5 ou 4. Il me semblait que c'était 5, d'accord. C'est 5. Et dans ces instituts, effectivement, là, vous avez aussi bien des gens qui ont suivi d'abord un enseignement classique d'orientalisme, d'islamologie, de philologie, et qui, dans le même temps, se trouvent côte à côte avec des ingénieurs, avec des gens qui viennent d'autres horizons, mais qui veulent faire des compléments de formation. Alors, ceci étant, évidemment, pour l'instant, cela représente en termes quantitatifs un nombre extrêmement fin, je crois, quelque chose comme 15% dans les statistiques existantes, puisqu'il y a quelque chose comme 15 000 étudiants dans les instituts la première catégorie dont j'ai parlé, les instituts supérieurs privés, et dans cette nouvelle catégorie d'instituts, y compris dans les centres Walid d'Oxford et de Cambridge, vous avez quelque chose qui ne dépasserait apparemment pas les 800 étudiants, ou je crois, oui, on a calculé ça entre 800, je crois, et 900 étudiants. Donc ça reste effectivement un nombre relativement limité, mais c'est un nombre qui est désormais beaucoup plus audible, on le voit. On le voit même ici à Paris, on voit un tas effectivement de structures désormais qui existent, y compris des structures qui s'appellent universitaires, instituts de formation de ceci et cela, qui ont été fondés par des étudiants formés dans ce type de nouvelles structures. Et leur demande, on la qualifie généralement de demande comparable ou analogue à celle des anciens étudiants par ce que Oakley appelle « the Great Gap ». Alors je rappelle rapidement ce que c'est « the Great Gap ». Donc « the Great Gap », c'est cette idée qui a émergé d'abord dans l'histoire de la théorie économique et puis par la suite qui a été empruntée par beaucoup d'autres domaines. Et donc Oakley disait, alors il reprend un terme de Schumpeter. Schumpeter, comme vous savez, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Histoire de l'analyse économique » et où il dit, voilà, bon, l'analyse économique, c'est dans l'Antiquité, et puis après, il y a le grand vide, « the great gap », et puis par la suite, il y a Saint Thomas d'Aquin, etc. Et donc, mais entre-temps, il n'y a rien. Et donc Oakley dit, oui, mais ça, c'est... Le reproche que vous trouvez mille fois chez Edward Said et toute la littérature ici d'Edward Said, donc c'est effectivement le fait que les sciences sociales sont eurocentrées dans leurs références et que donc, évidemment, dans les sciences sociales, il n'y a pas des noms chinois, il n'y a pas des noms africains, etc. etc. Alors, ce fait, si vous voulez, du point de vue sociologique, dans les enquêtes qui ont été menées, surtout dans les études récentes, fait sortir une revendication commune quasiment à tous ces étudiants, c'est de dire... Je suis intéressé par ce type d'enseignement parce qu'il y a un manque ou il y a une espèce de gap ou il y a un vide qui n'a pas été comblé par l'enseignement public. Je vous remercie.
Ben, merci pour l'invitation ce soir. Qu'est-ce que je vais parler un peu, je vais montrer aussi des extraits, comme ça on peut écouter aussi quelque chose. Et moi, je n'ai pas besoin de parler tout le temps. C'est que c'est l'islamisation un petit peu qu'on voit dans la musique populaire à travers de l'Europe. Alors je vais d'abord aussi dire qu'est-ce que je veux dire avec ce discours d'islamisation. Je veux dire, on voit que tout ce qui est un peu relié au Proche-Orient, tout ce qui est relié à l'immigration, intégration, reçoit le label d'être musulman, d'être islamisé. Je veux dire, ça va jusqu'au point que en Allemagne, mais ici la même chose, on ne parle plus des Turcs, on ne parle plus des migrants, on parle des musulmans. Pur et dur. Et jusqu'au point que moi, dans les discussions publiques, moi j'ai commencé comme historien du Proche-Orient, maintenant, vous ne travaillez sur l'islam, vous êtes islamisant ou islamiste, on demande mes enfants si je n'ai pas converti déjà, où je vais dans un magasin arabe, je parle deux, trois mots et eux aussi sont super contents. Ah, t'es devenu musulman? J'ai dit non, je m'excuse. C'est un peu, c'est cette affaire-là, c'est cette ambiance qu'on a dans ce moment et que je puis très bien aussi démontrer dans cet aspect de musique, de la culture populaire. Je vais commencer un petit peu, voir un petit peu sur les années 80, on voyait montrer le discours qui était là, c'était vraiment un discours contre le racisme, c'était pas trop lié avec la religion en soi, mais même cette résistance, on veut dire, sur le côté politique qui s'exprime dans la musique, elle aussi, de plus en plus, elle parle de l'islam, démontrer ça avec des exemples français. Après, je veux montrer quelque chose que je parle un peu, que je vois comme un peu mainstream islam, le point qui devient un peu, qui est pas si fort dans la discussion. Ça veut dire la culture populaire chez des jeunes croyants normales, quoi, je veux dire. Ouais, c'est pas vraiment des jeunes ils sont actifs dans leur foi, mais ils ont aussi leur propre culture. Passant de là à des choses un peu plus agressives, résistance du rap, on va revoir ça aussi. Et je vais conclure avec des images sur le salafisme contemporain, surtout de l'Allemagne, aussi une hymne. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est d'abord, c'est comme toujours, c'est plus complexe qu'on croit, parce qu'on va voir le même genre de musique peut servir pour une bonne cause, pour une mauvaise cause. Il n'y a rien de bien ou mal dans la musique, il n'y a rien de mal dans une culture pop. Je veux dire, c'est juste que par les jeunes le font, c'est pas vraiment quelque chose, mais on voit que les jeunes s'approprient la propre culture de l'Europe, de leur pays, de leur contexte, qui est différent en France ou en Allemagne, mais on va voir des extraits. Alors là, je vais commencer, vous vous rappelez peut-être, Rachid Taha, carte de séjour, 1986, et il a eu une thune avec son groupe carte de séjour, tube, et qui a eu un problème, et on va voir pourquoi.
Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime.
Alors, c'était quoi le problème avec ça? Aujourd'hui, on se demande un peu, mais dans le temps, c'était vraiment une affaire. Comment un peu un jeune voyou venu de l'Algérie peut réclamer cette douce France pour lui, comme ça lui appartient pas? Alors, ça a vraiment eu un... Oui, c'était... j'avais lu ça, que c'était même il y avait des problèmes que cette chanson passait à la radio, pas parler du vidéo en soi qui joue sur tous ces clichés qu'on dit. Ben je veux dire, on l'a là le dimanche en province et tout ça, et l'étranger qu'est-ce qu'il fait? Ben il vole les jeunes femmes et des choses comme ça. Alors c'est vraiment assez péjoratif quoi. Là on veut dire que dans les années début des années 90, on a eu aussi ça en Allemagne, sur le côté, pas encore l'islam, mais ça c'est vraiment intégration, je veux dire, on appartient à cette société, pourquoi vous ne les acceptez pas? Ça c'est le groupe Advanced Chemistry qui a sorti ça en 92, et fin 90, ouais, et fin 80, Fremd im eigenen Land, ça veut dire je suis étranger dans mon propre pays. Et toute la vidéo joue un peu comme avec qu'on avait vu avec Rachida et la chanson et tout ce qu'ils publient un peu, c'est que ils disent j'ai le passeport maintenant, mais vous m'acceptez pas. Ouais. Et qui est drôle un peu quand on voit ce slogan Fremd im eigenen Land qui date ici des années 80 par cette initiative des jeunes immigrés, c'est qu'on entend ça maintenant sur les Pegida, sur les démonstrations à Leipzig des droitistes. Et ils disent, on se sent étranger dans notre propre pays à cause de tous ces étrangers. Alors, on voit que ces slogans aussi, on peut les approprier. Ça vient d'un autre. C'est venu vraiment. C'était un slogan de ce temps-là. C'était comme un peu le même temps SOS racisme en France. Et c'était vraiment self empowerment de ces jeunes aussi. Le truc qu'ils ont, c'est le rap, c'est la musique. En France, très populaire, j'ai pas pris d'extrait parce qu'ils sont quand même assez très connus. Là, le Zebda veut dire arabe en beurre. C'est Zebda et beurre en arabe. Et comme vous savez, ce mouvement était aussi le mouvement beurre. Mais là, la même chose. Ici, le coq français avec une calligraphie de Khalil Gibran. Khalil, l'auteur libanais. L'humanité, ma famille. Le monde, ma patrie. Alors aussi... un signe comme d'appartenance, on est parti, si vous voulez ou pas, ça nous dérange pas, on appartient ici, il faut l'accepter, encore politique, mais pas encore trop avec l'islam, avec encore un point. Mais là, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être aussi, parce que je veux pas faire toute l'évolution, parce qu'on peut voir cette évolution un petit peu à travers des trois pays dont je m'en occupe le plus, l'Allemagne, la France et aussi l'Angleterre. Ici, je veux voir ça avec la chanson de Allez Salaud de Ridan, que vous connaissez peut-être, du rappeur Nadir. Et là, on voit déjà, maintenant, lui, il s'approprie la chanson française. Alors, il va même encore un peu plus loin que Rachita et les autres, parce que là, il s'attaque vraiment pas seulement à les textes, mais aussi l'instrumentation. Ça, c'est très français classique. Et qu'est-ce qu'on voit là? Et ça, c'est aussi quelque chose important dans toutes ces discussions-là, c'est l'espace public. Il s'approprie des choses, c'est l'espace public. On a des démonstrations des salafistes qui vont dehors sur les rues, qui sont très présents sur l'espace public, et on a les contre-démonstrations. Mais ça, c'est une autre chose. Mais là, on voit, et on voit aussi comment ça se passe en 2012.
Chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire de la mère Pacho. On l'a vu venir même d'un seul œil, l'enfant maudit du père Cyclope, en s'écriant vivement dimanche, tournant les pages des liens, le petit livre blanc. Y'a trop d'arabes dans mon pays, trop de musulmans, trop de pratiquants, pas assez de blancs, de bons chrétiens pour ramasser nos petites poubelles. On aime le vin, le saucisson, les vraies valeurs de la nation, que l'on marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam.
Et là, il est là, l'islam. Très présent. Lui, il n'est pas trop croyant, je crois. En tout cas, aussi dans la vidéo, ce n'est pas tout à fait là. Mais on voit cette question liée avec la résistance ou aussi l'espace public ou l'acceptation. Elle est de plus en plus liée à l'islam. Et c'est aussi ça que le grand public, la majorité comprend. Il ne comprendrait moins qu'en chante de ça maintenant si on dit non, l'islam a rien à faire avec ça. Mais là, pour voir maintenant, on regarde un petit peu ça que je qualifie moi-même comme mainstream islam. Alors l'islam, vraiment par des organisations qui se disent eux-mêmes très croyants et qui ont une popularité vis-à-vis les jeunes. Et là, j'ai pris un groupe allemand, le plus actif groupe, qui s'appelle Muslimische Jugend Deutschlands, les jeunes musulmans en Allemagne, qui sont issus aussi, ils ont des liens avec les frères musulmans égyptiens, mais finalement, c'était jamais trop prouvé, mais finalement, c'est un label qu'ils ont. Mais c'est un des plus grands groupes et intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils disent eux. Ils s'approprient le slogan de Kennedy. Ils disent on ne demande pas qu'est-ce que la société peut faire pour nous, on demande qu'est-ce que nous on peut faire pour la société. Alors ils font plein de bénévolat, ils sont dehors dans la rue, ils ramassent des déchets le 1er janvier. Il y a un grand groupe aussi, les Ahmadis font la même chose. Et on a des musulmans qui essayent de temps en temps être là quand on les voit faire du bénévolat, de voir des choses positives pour la communauté. Hein, vous savez, en Allemagne, on fait la grande fête Sylvestre avec toutes les fusils, tout ça. Il y a beaucoup de dégâts. Alors, eux sont là, le premier, ils disent, nous, on n'a pas fêté, on n'a pas de bois de l'alcool, mais au moins, on vous les a laissés tranquilles et là, on va enlever votre déchet. Alors, ça, c'est Muslimische Jugend, c'est aussi, dans cette organisation, il y a beaucoup de femmes. Ça, c'est clair. Il y a aussi ils sont un peu séparés parfois par les sexes, parfois ils se voient, ou s'ils ont des réunions, il y a les filles à gauche et les garçons à droite, ou vice-versa. Mais là, ça, par exemple, ils ont eu un prix là parce qu'ils se sont occupés des réfugiés de la Syrie. Oui, alors c'est aussi maintenant des associations qui sont vraiment importantes, surtout là, en parlant avec les réfugiés de la Syrie, mais aussi des autres affaires et nos gouvernements locaux en Allemagne surtout, ils leur demandent s'il y a des problèmes avec la communauté ou avec des autres affaires. Et là, on a droit à ces affaires-là. Iman Wochenende, ouais, dans ces associations, c'est un drôle de mélange entre arabe allemand ou arabe français, ou on voit ça. Iman, ça veut dire la foi. Alors, c'est Wochenende, c'est le week-end de foi. Et ici derrière, connect to Allah, yeah. Et en Allemagne comme en France, l'anglicisme aussi est fort. Alors là, on voit ici trois langues là-dessus. On a les imams et on a le logo de cette muslimische Jugend. Et on a aussi une mode qui va. Alors, ils ont un de deux qui s'appelle Mohamed Kesman, un Turc allemand. Il a fait son propre label de fashion. Il fait des t-shirts. I love my prophet. Des choses comme ça. Et celui-là, c'est mon préféré, Go Halal, avec le couchant et tout ce qui est pas licite. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit aussi avouer? Ça, c'est il y a quand même un clin d'œil là-dedans. Il y a quand même un petit rire, si on veut. Et c'est pas si grave. Mais qu'est-ce qui est très drôle, c'est qu'il est devenu très très populaire. Il a deux flagship stores maintenant, un à Médine et un à Mecque. Alors, c'est aussi ça. Je veux dire, il y a des processus, des vice-versa qu'on voit dans cette culture des jeunes, culture populaire. Et si, du côté musique, il faut regarder, c'est qui le grand pop star de ce mouvement-là? Ça doit être Sami Yusuf. C'est un chanteur anglais qui a vendu plus anglais afghan, qui a vendu plus que 21 millions de disques. C'est un des plus populaires chanteurs européens. Bien que personne ne le connaît, mais je veux dire, dans l'affaire, chez les jeunes musulmans en Europe et globalement, il est très très populaire et il chante des chants religieux, mais des chants religieux qu'on va voir qui vont aussi dans cette thème de qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour la société et comment la société va réagir. Ça veut dire, si, comme on va voir, on est un musulman croyant, ça va se payer. Hein, il est un peu calviniste, quoi.
We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad. خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام.
Alors ça, c'est vraiment, si on est bien, ça va se payer. On voit déjà, il a une belle maison, il a tout ça. Alors il y a cet aspect là il y a une classe moyenne musulmane qui essaie d'arriver dans la société et qui s'exprime ainsi. Et il y a aussi dans ça des autres genres de musique. Ça, c'était qu'est-ce qu'on voyait, c'était un peu le classique nashit, les chants religieux arabes du prophète, qu'on voit qu'il y a encore deux petits extraits qui vont suivre. Alors, sans grande instrumentation, mais juste avec la daf, alors avec le tambour. Mais ça, cette musique religieuse devient aussi appropriée par des autres styles. On a le hip-hop. Je vais vous montrer un extrait de la groupe danoise Outlandish, qui veut dire aussi Auslandish, alors étranger, et qui ont repris une tune de Cheb Khaled, écrite par Jean-Jacques Goldman, Aïcha, seulement que leur Aïcha n'est pas trop, elle est aussi Aïcha, mais je veux dire, c'est pas une femme indépendante ou quelque chose, c'est un peu plus classique, homme-femme. Mais qu'est-ce qui est intéressant, si vous voyez ce vidéo-là, en France, c'était un peu moins la thune, mais c'est vrai, c'est en anglais. Mais je veux dire, c'était que en Allemagne, c'était dans 16 semaines, c'était numéro 1 en Allemagne. Ça jouait, je veux dire, plusieurs fois dans la vidéo. Et dans la vidéo, on voit clairement qu'il y a une jeune fille qui prend le voile. Il y a une femme qui enseigne avec une voile. qu'on a nulle part en Europe, on a le droit d'enseigner avec un voile, sauf dans ce vidéo-là. Mais je veux dire, c'est que les jeunes aussi, après, ils peut-être pour la prochaine génération, ça devient plus normal. Et à la fin de l'extrait que je vais montrer, on voit la société majoritaire représentée par un Denois dans sa voiture. Vous allez voir. On voit clairement, il y a un homme, une vie d'homme et les femmes sont quelque part.
All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. Don't nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha. Passing me by,
go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my.
Super rare, rare.
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds a child to her heart. Makes her feel like she blessed from above.
Ah, il est là. Ça c'est. Ouais, c'est lui qui casse un peu l'idylle des immigrants. Et c'est un peu voir ça aussi, cette affaire de résistance à part des critiques, à part des vidéos qu'on voit clairement. On a aussi maintenant, si on montre un petit peu, que ça devient un peu plus agressif, si on veut. Vous connaissez beaucoup entre vous le groupe Sniper, qui a fait qui avait quand même des grands il y avait des scandales au début des années 2000 ou après 2005 aussi, après les émeutes dans les banlieues. Là, un vidéo, j'ai juste l'image brûle, mais c'est assez clair, c'est qui doit brûler. Ce sont les médias, ce doit l'État, on les accepte pas. Et en bas, c'est ça, une groupe anglaise intéressante qui s'appelle Fundamental, The Benefits of Jihad, All is War. Ça sortait en 2005 aussi. Et qu'est-ce qu'on voit là? Et c'est quelque chose que cette scène maintenant dans laquelle on est a beaucoup. C'est l'hypocrisie de l'Ouest. Là, on a la statue de la liberté à New York et elle est présentée comme comme le prisonnier d'Abu Ghraib. C'est ça l'image qu'on a, et c'était dans le cas aussi qu'il va. Et ils ont une tune là-dessus qui s'appelle DI Cookbook, où ils disent, ils montrent trois terroristes, plus ou moins. Le premier, c'est quelqu'un qui tue peut-être deux personnes. Le deuxième, aussi un musulman, il arrive à tuer une trentaine avec une petite bombe. Et le quatrième, c'est le scientifique américain. Combien il tue? Ouais. Alors ici, on est dans l'argument de quelque chose de très fort qu'on a dans cette scène qui n'est pas encore en soi une scène violente, mais qui est une scène frustrée et qui est agressive contre cette frustration. Et qui disent, écoutez, je me laisse pas supprimer, le problème c'est vous. Ouais, c'est l'Ouest. Il y a beaucoup plus de musulmans qui sont tués par des chrétiens que vice-versa. Et ça, c'est un argument qui est difficile à démontrer, à démonter, quoi. Et là, je suis tombé sur un extrait dernièrement que je trouvais très intéressant. C'est allemand. Ça vient d'Autriche, de la ville de Graz, d'où vient mon grand-père. Et je me suis pas imaginé de voir ça là. Alors le style est plutôt banlieue français. Je savais même pas que ça existe à Graz. Et ce sont deux gens qui ont fait un groupe qui s'appelle, ils ont Baltagi Records. Ces Baltagis, ce sont les Égyptiens. On avait parlé des gens qui tapent, qui molestent les qui ont molesté les gens sur le Tahrir. Et c'est Yasser Osman et il chante un chant, c'est du rap. Et je vais pas tout traduire, vous allez savoir, c'est vraiment très anti-américain, très anti-Israël. Et une fois, ils disent, ben tout le monde doit se rallier contre eux. Et le refrain, c'est que les Américains doivent se faire foutre. Je ne savais pas mieux de l'expliquer. An alle Bürger, à tous les citoyens.
Das geht an alle Amerikaner, die gegen uns was haben, an alle Zionisten, Alter. Nur gegen die, was gegen uns was haben.
70 000 Klicks sur YouTube.
Yeah. Jeder Zweite will jetzt hart sein, stark sein. Fick die USA und Israel, ich werde Staatsfeind. Baltagis Sound in dein Arsch, weil du denkst, du bist hart. 150 Kilo Muskeln, doch dein Herz ist nicht stark. Bin für Palästin, Intifada, eigene Staat. PLO, Bruder, Allah, Erham, Arafat. Trage einen schwarzen Bart, immer gegen Vaterstaat. Bin ein stolzer Muslim, ist mir scheißegal, was ihr hier sagt. Keiner kann mir was erzählen, bin umgeben von Problemen, die mich und vor allem meinen lieben alten Vater quälen. Ich bin dankbar, doch es gibt zu viele Sachen, die uns fehlen. Schau dich um, ich bin enttäuscht von diesem Scheißleben. Brüder töten Brüder, nichts ist wie früher. Kinder schmeißen mit Steinen und Israel fährt kalt drüber. Sie denken, sie sind klüger, was für Medien alles Lügner. Jeder schweigt wegen die Geschichten des deutschen Führers. An alle Brüder aus dem Gaza, an alle Masrin, Syrien, Libanesen, Iraker, an alle Algeris, Marokks und Afghaner, an alle Weißen, an alle Schwarzafrikaner, an alle Kosovo-Albaner, an die Türken, Kurden, Bosnier, Tunsis, Iraner, an alle noch Chis, an alle Tagistaner. Zusammenhalt, dann ficken wir die scheiß Amerikaner. Ich befinde mich in einem Dschungel von Millionen verschiedenen Meinungen über Gott und die Welt und falschen Prophezeiungen. Wir sehen, wie sie Islam mit dem Terror verbinden. Ja, Rab, sind diese Leute noch bei Sinn? Ich was.
Baila. Terminé sur une phrase, disait, on voit que les gens associent l'islam seulement avec la terreur. Est-ce qu'ils s'en foutent, devenus fous les gens? Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est pas vraiment une image trop sympathique de ces jeunes gens. Mais il y a aussi des entretiens avec eux. Ils disent vraiment, on n'est pas violent. C'est aussi le rap, c'est le style, ça va avec. C'est Public Enemy, je veux dire, des choses comme ça. Il y a des images là-dessus, mais c'est vrai que ça sera pas des gens de classe moyenne musulmane qui diseront qu'est-ce que la société qu'est-ce que je peux faire pour la société quoi. Et allant de là au vraiment l'extrême mais très connu populaire, ça qu'on voit dans ce moment, la culture populaire, ben c'est clair, les salafistes ça arrête pas quoi. C'est on a ça, on a des sites, on a des symboles. Je veux dire, je sais pas si les salafis portaient ça, mais je veux dire les salafis modernes portent ça. Mais je veux dire pendant le temps du prophète ici, Kufr Koms Nedrein, ça veut dire les gens de la non-croyance peut pas y aller dedans. Alors c'est comme, et lui il est présenté ben dans le style comique comme quelqu'un qui garde une discothèque. Et ici il y a le comment on dit, la outdoor look pour toutes les générations, du grand-père au fils. Les jogging ISIS pour tout le monde. Et alors il y a cette scène là et ils ont clairement aussi leur chant, et leur chant c'est le nashit. Je vais jouer un petit extrait d'une chanson qui s'appelle « Mère, reste ferme, ton fils est dans le djihad », chantée par Mounir Chauka, un Allemand de souche, un Allemand arabe qui est allé en Afghanistan pour faire la guerre là, avec l'Union Ouzbek, ça s'appelle. Et lui, il chante ça, en chantant aussi qu'on voit les morts et tout ça, mais finalement, on va devenir les martyrs, on devient des oiseaux verts qui sont mentionnés aussi dans le Coran.
Mutter, bleib standhaft. Mutter, bleib standhaft, ich bin im Dschihad. Trauer nicht mich und wisse, hat mich erwählt. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Die Schreie wurden lauter, die Wunden nahmen zu. Die unerfüllte Pflicht, sie ließ mir keine Ruhe. Noch heute muss ich gehen, morgen wär's schon zu spät. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad.
Alors, il disait aussi, j'ai dû faire l'obligation manquant, al-farid al-raiba, qui est un truc très populaire chez les djihadistes, ça veut dire le djihad, mais pas le djihad vraiment défensif, mais un djihad assez, offensif, mais le raisonnement derrière, c'est que le monde musulman est attaqué, alors tout est légitime, quoi. Mais je veux pas arrêter vraiment sur ça, surtout parce que c'est un peu genre ça. Je veux juste dire que la musique en soi, elle est pas positive ou négative. On avait déjà un nashid avec Sam Youssef au début. Alors cet arrangement de la voix très très un peu simple et strict. Et là, je vais rejouer un autre petit extrait allemand que moi je trouve vraiment beaucoup plus symptomatique pour notre société musulmane en Europe. Et pour vraiment mettre le normal, et ça c'est un chant aussi très vu et répandu dans l'internet, en tout cas dans les sites allemands. Ce sont quatre jeunes garçons qui chantent de la beauté du Ramadan, que pour moi est vraiment plus sympathique.
Zeit des Jahres, es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan.
Ouais. C'est juste montrer un peu plus la normalité dans quelques contextes. C'est, je veux dire, avec un autre texte, ça peut aussi être différent, mais je veux dire, c'est ça un peu, qu'est-ce qu'on doit voir un peu aussi. C'est beaucoup de ces choses aussi que j'ai montrées, il y a un lien avec les pays d'origine, mais ça devient très, très européen, et les gens utilisent un peu tous les mêmes codes, si on veut. C'est un peu différent, mais je veux dire, il y a le hoodie salafiste, il y a le hoodie mainstream islam, et il y a le hoodie anti-islam. Alors, les vêtements sont un peu la même chose, c'est tous un peu le même temps. Et pour regarder aussi cette normalité, ça, c'est une image d'une petite fille de 7 ans qui fait une image avec juste elle et sa institutrice, son professeur devant la mosquée. On peut s'imaginer le même image, petite fille avec sa mère devant l'église et tout ça. C'est ça l'islam européen. C'est ça aussi l'islam européen. C'est les Anglais qui sont au moins pas si obsédés par le voile, où on peut le porter même dans la police. Et avec ça, je veux conclure. La France, vive France, non ? C'est bon. Merci.